Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dose de France. Je suis Johan Collo, fondateur de la page Instagram Dose de France et du site internet demichelot.com, dédié aux apéritifs et spiritueux français. Pour trouver des boissons de qualité artisanale et traditionnelle, rendez-vous sur demichelot.com. Rappel nécessaire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Les amis, alors cette semaine, on se retrouve vendredi et pas jeudi, tout simplement parce que d'habitude, je me dis, je fixe aucun rendez-vous le jeudi, comme ça, je fais le podcast et je peux le publier. Et là, comme un guignol, j'ai eu pas mal de rendez-vous et je leur dis, ben oui, mais jeudi, mais ma journée est entièrement vide, en fait. Donc, je cale tous mes rendez-vous jeudi. Et hier soir, je me suis dit, mais attends, mon podcast, comment ça se fait que j'ai pas eu le temps de le tourner? Bah parce que comme un guignol, en fait, je suis rentré chez moi, il était 18h. Et ensuite, j'avais encore d'autres trucs à faire. Et j'avais complètement oublié de réserver mon jeudi pour faire le podcast. Donc maintenant, je l'écrirai dans mon emploi du temps au lieu d'oublier de pourquoi mes matinées du jeudi sont vides. Voilà, donc je m'excuse pour ça, mais je me rattrape vite en le faisant aujourd'hui. Alors, cette semaine, je viens avec pas mal de bonnes nouvelles. Je viens avec pas mal d'annonces, en tout cas, de futurs produits qui vont sortir sur demichelot.com. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous me suivez sur Instagram, @12defrance, tout attaché, vous avez sûrement vu que pour la fête des pères, donc la fête des pères, c'est le 15 juin, voilà, je vous le dis tous, surtout les mecs, parce que je sais que vous allez oublier, la fête des pères, c'est le 15 juin. Et donc, la fête des pères est un moment, pas le moment le plus important de l'année, mais un moment quand même assez important. Le mois avant la fête des pères est un mois assez important pour les gens qui font mon métier, c'est-à-dire vendre de l'alcool. Parce que souvent, on ne sait pas trop quoi offrir aux darons ou aux grands-pères. Et donc, une petite bouteille d'un bon alcool, ça fait toujours plaisir. Ça ne coûte pas forcément ultra cher. C'est pas trop prise de tête. Et donc, c'est un cadeau qui est facile et qui fera toujours plaisir. Voilà. Donc, nous, en tant que vendeurs d'alcool, eh ben, on est chargé de bien préparer cette période-là pour avoir des trucs intéressants à sortir et que ça marche bien commercialement pour nous. Donc, moi, l'année dernière, comme un guignol, je l'avais complètement raté, la fête des pères. Donc, j'avais fait... en fait, j'avais rien fait et je n'avais pas pu capitaliser là-dessus. Et cette année, je me suis dit, bah, écoute... cette fois on se rate pas, on va essayer de sortir des jolis produits et faire en sorte que les gens puissent trouver leur bonheur pour offrir à leur père. C'est pourquoi je vous annonce, comme je l'avais dit en story ou dans mon canal Instagram, la sortie de 5 embouteillages en édition limitée, 4 sous l'égide Maquisard et 1 qui portera le nom de Dose de France. Parce qu'on ne pouvait pas le faire sous une bouteille Maquisard, et donc on ne voulait pas qu'il y ait une bouteille Maquisard qui soit différente de toutes les autres. Donc on a mis Dose de France, comme ça c'était plus pratique. Alors, que je vous les annonce, d'abord pour la Dose de France, donc ça sera un gin à plus de 50 degrés, 50,7 degrés, toutes les bouteilles sont les 50 centilitres, donc c'est une collaboration avec la marque de gin français Citadel, et du coup en co-embouteillage avec moi, donc Dose de France, et qui devrait normalement être autour d'une 50aine d'euros pour seulement 60 exemplaires en vente. Et je suis très très fier d'avoir pu... Bah déjà les 5 embouteillages qu'on sort, pour moi ancien caviste, c'est un rêve absolu parce que c'est 5 maisons que j'admirais. Jamais j'aurais pu croire que j'aurais un contact un jour avec eux et surtout pour leur acheter de l'alcool en fait et pouvoir faire même aller sélectionner chez eux puisque je me suis rendu chez tout le monde pour sélectionner. Jamais j'aurais pu croire que ce serait possible et là je le fais. J'arrive même pas à m'en rendre compte hein, honnêtement que je sélectionne des jus et que je collabore avec des maisons qui sont aussi grosses parce que Citadel, je crois que c'est le numéro 1 en craft gin français. Ils sont créés depuis 1996. 1996, c'est ma date de naissance. Et je crois qu'en 29 ans, ils n'ont jamais fait de collab. En tout cas, c'est ce qu'ils me disaient avec quelqu'un pour faire un embouteillage privé de gin Citadel qui serait commercialisé en dehors de leur circuit de commercialisation à eux. Donc, je suis très honoré qu'en 29 ans, le tout premier, ça soit avec moi. Il y aura seulement 60 bouteilles. Et donc, c'est un gin qui a vieilli 3 ans en fût de merisier. Donc, ça lui donne un goût qui est assez caractéristique de noisette, noisette fraîche, pas noisette cuite ou pâte à tartiner ou quoi. Vraiment, noisette fraîche, noisette verte, comme si on la mangeait bah, vraiment crue, quoi. Et je trouve que c'est un produit qui est hyper intéressant, une saveur que normalement vous n'aurez jamais retrouvée ailleurs. Donc c'est une expérience qui est vraiment cool et je suis content de la mener avec eux. La deuxième bouteille que je sors, pour rester sur le même groupe, puisque Citadel appartient au groupe Ferrand, qui compte du coup les cognacs Ferrand, le gin Citadel et le rhum Plantation, qui maintenant s'appelle Plantrait. Et après ils ont d'autres marques, genre Canrock, etc. Et du coup, le premier des quatre maquisards, mais la deuxième édition limitée qu'on sort pour la fête des pères, c'est un cognac de la maison Ferrand de 2012 et qui a passé tout son vieillissement en fût qui avant contenait du vin de Bordeaux, vin rouge de Bordeaux, de l'appellation Pauillac. Donc on dit ex-Pauillac, quoi. Donc là, une couleur de dingue, du fruit, pas mal de structure, un peu de tanin et tout. Vraiment un très joli produit. Et pareil, très très fier de sortir ce genre de truc. Ça devrait tourner autour de 80, 85 euros, quelque chose comme ça. Et pareil, c'est à plus de 50 degrés, c'est à 51 et quelques. Dans mes souvenirs, on attend de voir le dernier relevé. Donc cognac Grande Champagne, 2012, 51 degrés, ex-Pauillac. Et pareil, seulement 60 bouteilles sur cette édition-là. Ensuite, on sort un Calvados de la maison Christian Drouin, un 10 ans, qui a lui passé 15 mois en fût de whisky. Donc il a vieilli dans un fût roux de Calvados, donc un fût qui avait déjà été beaucoup utilisé et qui donne pas beaucoup d'impact au liquide. Et ensuite, il a fait ce qu'on appelle un finish ou une maturation de 15 mois dans un fût de whisky écossais, qui avant contenait du whisky Arran, de la marque Arran, donc vraiment un monstre sacré du whisky, un géant, marque que personnellement j'apprécie, mais dont je ne parle pas parce que c'est pas français, tout simplement. Donc voilà, ça vient donner un côté un peu plus céréalier, beaucoup plus de puissance, du gras et tout, c'est très intéressant, et pareil, ça devrait tourner autour de 80 balles, quelque chose comme ça. Et il sera à 48,4 degrés normalement. Je sais plus où j'en suis. Quatrième bouteille, ouais, troisième maquisard. Ça sera un whisky, notre tout premier whisky avec Domaine des Hautes-Glaces. Donc, ce sera un 8 ans d'âge, 100% orge. Donc, ce sera un single malt qui devrait tourner autour de 51 degrés, 100 bouteilles disponibles. Ah, d'ailleurs, le Calvados. Je reprends, le Calvados, il y en aura 120 des bouteilles et il y en aura 120 en plus en exclu pour le Québec, pour notre importateur québécois. Donc si vous m'écoutez depuis le Québec et que ça vous intéresse, il faudra m'envoyer un message et je vous transmettrai le compte Insta de notre importateur québécois qui pourra vous les facturer, vous les livrer à la SAQ la plus proche de chez vous. Et après, en plus, il y en a 120 pour la France. Donc, pour revenir à notre whisky, Domaine des Hautes-Glaces, single malt, donc whisky français. Vieillissement ex-cognac, donc le fût était un fût de cognac. 8 ans d'âge, ça devrait tourner autour de la centaine d'euros et une centaine de bouteilles. Et l'œuvre qui sera présente sur cette étiquette est somptueuse. C'est une gypaète barbue. Incroyable. J'avais montré en story il y a genre peut-être 2 mois. Elle est dingue, ça va être trop stylé. Et du coup, ouais, Domaine des Hautes-Glaces en Isère, ils sont à 1200 mètres, je crois. Est-ce qu'il a l'altitude maximale pour faire l'altitude maximale pour faire pousser des céréales. Donc vraiment, ils ont une identité qui leur est propre et c'est très intéressant. Ensuite, le tout dernier, et après on a fini avec les annonces. Le tout dernier, ça sera un Armagnac, alors là, un vrai ovni, un Armagnac de la maison Labal, un bar Armagnac dispo à 160 bouteilles et c'est un 2023. Donc il a à peine, il a même pas 2 ans. Et donc, il est bio et il a vieilli 12, ses 12 premiers mois en fût de chêne neuf, chauffe moyenne, moyenne plus, donc une bonne chauffe. Et c'est surtout que c'était un fût qui était. Le bois avait des grains fins, ce qui est pas courant et qui donne vraiment une typicité qui vient faire pour moi une oxygénation beaucoup plus homogène. C'était très intéressant. Moi, quand j'étais allé dans leur chai, ils prenaient deux distillats identiques qu'ils avaient distillés en même temps et ils mettaient une partie dans des fûts à grains fins et une partie dans des fûts gros grains. Et on observait la différence, mais à peine au bout de quelques mois, c'était flagrant. Et moi, j'avais adoré les grains fins et je leur ai demandé bah, si je pouvais leur acheter de l'Armagnac qui est vieilli en grains fins pour que les gens qui vont acheter les bouteilles puissent découvrir. Ces Armagnacs avec une identité vraiment très très rare. Et donc 160 bouteilles, ça devrait tourner autour pareil de 50-55 euros. Et c'est vraiment un ovni. Je suis très très heureux de sortir ce jus-là. 100% Bacau en plus, donc c'est pas forcément un cépage qu'on a l'habitude de voir. Et donc j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus parce que c'est vraiment. En fait, c'est ça le. La vraie identité d'un, enfin la vraie mission, le vrai but d'un embouteilleur indépendant, au-delà de pouvoir ensuite acheter des jus, faire soi-même ses vieillissements et tout, c'est aussi d'aller dénicher voilà ces choses un peu rares que des choses que des distilleries testent, qu'elles n'oseraient pas forcément sortir telles quelles, qu'elles doivent faire vieillir plus longtemps ou assembler derrière. Et moi je dis ben non non ça c'est vraiment une identité dingue, j'adore. Est-ce que vous acceptez que je l'embouteille telle quelle? Je mentionne votre nom. Comme ça, les gens savent d'où ça vient et ils savent que votre distillerie est capable de sortir ce type de jus de très haute qualité avec des identités très fortes. Juste, eux, commercialement, ils ne veulent pas forcément prendre le risque. Et du coup, ils font des assemblages où ils les modifient derrière. Ils se disent, bon, c'est sympa, mais ça ne plairait peut-être pas à notre cœur de cible. Alors que moi, le but, c'est juste de proposer des trucs bons, originaux, qu'on ne trouverait pas forcément ailleurs. Donc un Calvados vieilli en fût de whisky, un cognac vieilli en fût de vin, un Armagnac de 2 ans avec des tests sur le bois, un whisky ex-cognac, bon ça c'est un peu plus courant, mais qui sort à 51 degrés, un gin vieilli en fût de merisier, mais jamais il sortirait ça commercialement. Déjà les gins vieillis c'est très dur à vendre, mais alors en plus tu dois expliquer que c'est en fût de merisier et tout, mais les gens, la plupart des gens s'en tapent, hein, vendre ça chez les cavistes c'est hyper dur. Et la dernière chose, bah non, j'ai tout cité. Hein. Donc voilà, là c'est 5 ovnis, mais qui sont très très bons, qui ne sortiraient pas forcément tels quels chez des cavistes, donc vous ne pourriez pas retrouver. Et nous, notre mission, c'est d'aller les dénicher pour vous montrer que ça existe, vous montrer que c'est bon, vous faire connaître les distilleries qui font ce genre de produits et que vous puissiez les goûter. Voilà. Bon, après, par définition, du coup, c'est en édition limitée, puisque bah, un fût, c'est fini. Ne peut pas en avoir à l'infini, c'est pas une rivière, quoi. Donc, il y aura en tout, je crois que ça fait 500 bouteilles, tout cumulé à peu près. Donc, j'ai hâte de sortir ça. On espère le sortir autour du 15 mai. Alors là, on est en train de finaliser les étiquettes, les œuvres d'art, et ensuite là, aller les imprimer. Puis, il faut tout embouteiller et tout rapatrier à notre entrepôt. Donc, ça prend toujours du temps. On aimerait les sortir autour du 15 mai. Et cette fois, ça ne sera pas de prévente. C'est-à-dire que vous l'achetez, vous êtes livré. En 48-72 heures, quoi. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir l'offrir à votre paternel le jour de la fête des pères. Voilà pour les annonces des éditions limitées. Après, sinon, il y aura toujours les liqueurs de Michelot sur demichelot.com. D'ailleurs, tout sortira sur demichelot.com en exclusivité, hein. Il y aura toujours nos liqueurs de plantes, il y aura toujours les gins de la maison Hexagone, la vodka et le soju de la maison Bonvalet. Normalement, on rentrera aussi d'ici là des cognacs, Pinot des Charentes et un espèce de Pinot, mais qui a perdu l'appellation puisqu'il est aussi refait avec de la framboise dedans et tout, de la maison Pasquet, donc qui est une maison de cognac. La palette devrait pas tarder à arriver chez nous là, donc ça sera la troisième maison qu'on va distribuer. Je vous l'annonce en avant-première, je l'ai dit nulle part. Et j'espère aussi, avant la fête des pères, qu'on aura du coup la quatrième maison qu'on distribue, qui serait des eaux de vie de fruits d'un bouilleur de cru. Voilà, donc lui, il fait. Moi, j'aimerais bien lui acheter quetsch, mirabelle et poire. Voilà, donc tout ça à retrouver en exclusivité sur demichelot.com, mon site internet. Bon, les annonces étant faites. Ah non, j'ai une dernière annonce pour vous aussi. Pour ceux qui habitent dans la région parisienne, ou même si vous habitez plus loin et que vous avez envie de vous faire un week-end, juste la semaine juste avant la fête des Pères, le 6 juin, donc le vendredi 6 juin, on va faire un événement sur une barge, une péniche, qui est à Issy-les-Moulineaux, qui est une ville collée à Paris, dans le sud-ouest de Paris, mais vraiment collée à Paris. Pour la fête des pères, alors on n'a pas encore fini de structurer l'événement, mais comme on n'est pas des milliards sur ce podcast, je vous l'annonce quand même. Il y aura un événement où il y aura masterclass autour du gin, du rhum, du cognac, pour voilà, découvrir, expliquer par des professionnels les méthodes de fabrication. C'est une péniche dans laquelle il y a des fûts qui sont en vieillissement et que vous pourrez visiter, goûter certaines choses, des cocktails. Donc, ça sera une entrée payante pour pouvoir contrôler le nombre de personnes qui viennent. Et je pense que comme c'est pour la fête des pères, on va faire un petit truc sympa qui est entrée payante pour une personne. Et si vous venez avec votre père, l'entrée pour votre père est gratuite. Et avec ça, vous avez les cocktails et tout, plus les explications et la visite de la barge. Comme ça vous fait un chouette cadeau avec pas mal de choses à déguster et une petite fin de soirée, fin d'après-midi, début de soirée agréable. Et bien sûr, moi je serai là-bas aussi, comme ça on pourra discuter et tout. Donc ça sera très cool. Je pense qu'on fera aussi déguster des maquisards pour l'occasion que j'aurai gardé. Comme ça, il y aura vraiment pas mal de trucs à déguster. Ça sera vraiment une très chouette expérience. On va finir de structurer ça et je l'annoncerai plus précisément sur Instagram et en newsletter. Mais il y a ça qui se prépare. Voilà, j'ai fini toutes les annonces, ça a pris un quart d'heure. maintenant, un peu plus de détente. Il faut savoir que je voulais, hier quand je suis rentré, je me suis dit merde, j'ai oublié de faire le podcast. Et du coup, je voulais l'enregistrer quand même en fin d'après-midi, début de soirée. Et j'ai pas pu parce que hier c'était jeudi saint. Et du coup, il y avait la messe avec la reproduction de la scène. Enfin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le Jeudi Saint, mais du coup, c'est l'instauration de. Enfin, c'est la reproduction de la scène, donc le dernier repas du Christ avec ses disciples. Et ça commémore l'institution de l'Eucharistie, donc fait par Jésus-Christ. Et notamment à la fin, enfin, au milieu de la messe, il y a quelque chose qu'on ne voit jamais, qui est le lavement des pieds du prêtre à des paroissiens pour reproduire la scène de Jésus qui lave les pieds de ses disciples parce qu'il se met à leur service, etc. Enfin bref, on n'est pas là pour faire un cours sur le christianisme, mais voilà. Donc tous ceux qui y sont allés savent très bien de quoi je parle, savent peut-être même beaucoup mieux que moi. Et c'est passé une scène marrante parce que je me suis mis à la place de quelqu'un. Attends, bah d'abord, je vous raconte. En gros, je m'assois. Ça n'a pas commencé, j'étais un peu en avance. D'ailleurs, j'ai trouvé une place de parking juste devant l'église, j'ai fait un créneau magistral. Ça, voilà, c'est une petite anecdote à part, mais pour dire que moi, je fais des créneaux qui sont absolument divins. Voilà, jeudi saint, créneau saint. hop, je sors. Du coup, je suis très en avance puisque je me suis mis vraiment devant la porte de l'église, en fait. Et je m'assois, et là il y a une dame qui vient me voir, et je sens qu'elle tourne autour de moi, une dame de 65-70 ans. Je sens qu'elle veut venir me parler, mais c'est bizarre. Et à un moment, elle vient me voir, elle fait: Oui, bonjour jeune homme, j'ai remarqué que vous avez des très jolis pieds. Je me dis, mais elle est complètement folle, qu'est-ce qu'elle raconte pour qu'elle me dise ça? Elle me dit, ouais, est-ce que vous accepteriez de vous les faire laver par le prêtre? On manque de volontaires. Donc là, j'ai compris, parce qu'au début, j'avais pas fait la connexion, parce que j'étais dans mes pensées. Et je me suis dit, mis à la place d'un mec, parce qu'en ce moment, il y a de plus en plus de baptisés, d'adultes qui se font baptiser. Et donc, il y a forcément de plus en plus de personnes qui viennent à l'église pour la première fois, qui ont déjà commencé à faire un chemin de foi, etc. Et donc, la semaine sainte, forcément, t'as plus de gens qui viennent s'intéresser, voir ce qui se passe. Je me dis, mets-toi à la place d'un mec qui sait pas ce qui se passe. Il se dit, bon, vas-y, j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à la télé de la semaine sainte, la messe du jeudi soir avec la commémoration de la scène, etc. Je vais aller voir, c'est un moment puissant. Imagine, tu connais rien du tout ou très peu, et il y a quelqu'un qui vient te voir et fait « Bonjour monsieur, vous savez que vous avez des superbes pieds ?» T'es dit « Putain, je suis cinglé ou quoi? Pourquoi il y a une dame qui vient me faire ça et tout? Est-ce que vous les faire laver ?» Bref, après, moi, j'ai connecté, mais je me suis dit « Mais un mec qui vient là pour la première fois, il se dit « Mais en fait, vous êtes tous des gros cinglés, quoi. » Donc j'ai refusé parce que je lui ai dit à la dame, très bien, vous manquez de volontaire, mais vous avez menti, mes pieds ne sont pas du tout jolis, madame. Je pense que la définition d'un joli pied et mes pieds, c'est vraiment deux choses qui sont à l'opposé en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Le Seigneur des Anneaux, vous voyez les pieds de Frodon, bah c'est à peu près Mayep quoi. Des énormes péniches rectangulaires, épaisses comme une focaccia, mais avec des poils dessus. Et la focaccia, en plus, ça sent l'ail, exactement comme mes pieds. Je peux te dire que le curé, il serait tombé dans les pommes. Il aurait lavé le premier yep, le mien, il aurait disparu. Donc, j'ai refusé pour m'éviter une humiliation publique d'une démonstration d'un yep immonde, qui sont les miens, parce qu'il faut savoir rester à sa place. Et la mienne, c'est des yep dans des chaussettes et dans des chaussures, et on ne les sort pas devant un public qui n'est pas averti. J'allais pas traumatiser l'assemblée en jeudi saint, ça va être terrible quoi. Ils allaient dire, mais quel est cet immondice? En plus, je m'inflige une humiliation et j'oblige le curé à laver. tout est horrible. La dame qui vient me voir, vous avez des jolis pieds. Derrière, j'assomme le prêtre avec une odeur de Pringles Cream Onion et un pied de Hobbit. Le mec aurait été terrifié quoi. Enfin, le curé aurait été terrifié. Il aurait passé une fin de semaine sainte horrible. Je pense qu'il aurait jamais pu s'en remettre. J'ai suffisamment d'autodérision pour savoir que j'ai un yep immonde qui ressemble à ceux de Frodon Sacquet. Et en plus, sauf que moi, Frodon Sacquet marche pieds nus. Si moi, je marche pieds nus, en plus, je me fais mal. Donc le yep devient de plus en plus moche, en fait, puisqu'il subit, il subit des cicatrices, il est endommagé, en fait. Voilà. Mais c'était juste petite anecdote rigolote autour de ça et vous expliquer aussi pourquoi une nouvelle fois j'ai raté la production du podcast hier parce que j'ai fini tous mes rendez-vous et je sais je le fais en fin d'après-midi début de soirée et en fait non j'ai dû me carapater direct à l'église pour le jeudi saint. D'ailleurs ça m'intéresserait de savoir si vous étiez beaucoup à le faire. C'est vrai que mercredi des cendres, il y avait énormément de monde. Là, il y avait un petit peu moins de monde, mais quand même beaucoup de monde. Après, moi, c'est une paroisse à Boulogne-Billancourt, donc forcément, déjà, c'est une ville où il y a encore beaucoup de croyants et il y a beaucoup, beaucoup de monde aussi. Et donc, forcément, je crois que dans ma paroisse, il y a genre 6 ou 7 prêtres, quoi. Donc voilà. Je pense que je vais faire un podcast assez court aujourd'hui parce que j'ai encore beaucoup de travail. Et voilà, tout simplement, j'avais cette petite anecdote. Et je voulais aussi, c'est vrai j'ai de plus en plus d'entre vous qui ont ce podcast comme un rendez-vous hebdomadaire et qui m'ont fait commencent à me faire des retours. Alors ça, c'est très bien. Faites-moi des retours sur ce que vous pensez, parce que ça m'aide ensuite à les faire, savoir ce que vous aimez. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça leur plaisait, le format, surtout discours un peu plus libre, moins cadré par des catégories. Donc ça, je vais le garder. Par contre, ils aimaient bien aussi avoir des petites anecdotes ou de l'éducatif sur l'alcool, comme j'ai pu faire la semaine dernière avec la chartreuse. Je pense que pas mal de gens ont découvert les moines chartreux, la différence entre les chartreux, chartreuse diffusion, la manière dont c'est fabriqué, le fait que c'est pas les moines qui fabriquent la chartreuse, etc., etc., mais qui connaissent quand même les recettes. Enfin bref, allez écouter le podcast de la semaine dernière. Donc c'est vrai que je pourrais faire un peu plus d'éducatif sur l'alcool. Et aussi toujours conseiller des restaurants, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup sur mon compte Insta, c'est le fait que je conseille des restos. Je pense que c'est devenu maintenant le sujet numéro 1 de mes réseaux sociaux et ce pourquoi beaucoup de gens me suivent. Et d'ailleurs, j'ai fait un nouveau format maintenant, enfin un nouveau format. C'est-à-dire que comme je vais très souvent au restaurant, ne serait-ce que pour mon boulot, pour vendre des bouteilles à des restaurateurs, à chaque fois, je filmais pas forcément parce que je suis pas suffisamment à l'aise, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour faire comme les influenceurs qui filment tous leurs repas et tout, qui ont même des... Putain, il y en a, ils ont des panneaux LED et tout, donc ils sont dans un restaurant, et ils allument leurs panneaux LED à côté des autres et tout. Putain, c'est l'enfer. Je sais pas comment ils font pour être sans gêne comme ça. Moi, ça serait horrible, j'y arriverais pas du tout. Et donc, il y a plein de restos que je faisais et je me filmais pas spécialement, donc ça, je faisais pas de vidéo. Là, j'ai décidé que j'allais quand même essayer de faire quelques plans par-ci par-là, de bricoler une vidéo avec une voix off pour vous présenter plus d'adresses. Donc, j'ai sorti deux vidéos de ce type cette semaine à l'Auberge du Mouton Blanc à Paris 16, qui est le deuxième plus vieux resto de Paris et qui vient d'être repris par une famille qui possède une dizaine de restaurants dans toute la capitale. Donc, on nous fait quelque chose de très propre. Avec de la cuisine, une cuisine qui est bonne, qui est sympa. Et bah, en termes de vue et tout, ça marche beaucoup moins bien parce qu'il n'y a pas tout le côté bourrin, on se met une tôle, on bouffe des énormes côtes de bœuf et tout. Mais au moins, ça permet de présenter une petite adresse. Et après, je ne vous le cache pas, je tourne aussi ces vidéos-là en mode un peu plus business parce que maintenant, sur Instagram, il y a une option qui nous permet de faire commenter. Les gens, donc dans ces vidéos-là, je dis si vous voulez retrouver les spiritueux que je vois au restaurateur, commentez spiritueux. Et en fait, ça leur envoie un lien vers mon site internet. Et j'ai remarqué que ça augmentait significativement mes ventes. Donc, je présente plus de restos avec des vidéos qui sont peut-être un peu moins quali, un peu moins engageantes. Mais il y a quand même les 45 à 65 000 vues. Et c'est surtout derrière moi pour le business, c'est quand même un peu prolifique. Donc, je pense que je préfère avoir un rythme beaucoup plus régulier. Présenter plus de choses, mais avoir moins de vues et faire plus de business que juste aller chercher un maximum de vues, sortir beaucoup moins de vidéos, vous présenter beaucoup moins de choses. Et derrière, en plus, ça ne me fait pas spécialement de business. Donc voilà, j'ai pris cette direction-là parce que bah, ce n'est pas les vues et la gloire qui te fait. Enfin, la faux, enfin, la gloire. Le fait de faire beaucoup de vues, d'avoir des vidéos qui explosent, ce n'est pas ça qui me nourrit en fait. Donc, au bout d'un moment, faire un choix rationnel et j'aime bien faire ce type de format qui me permet d'aller déjeuner tout seul à midi et chez des clients ou prospects chez qui je vais, je filme quelques plans, je fais une petite vidéo sympa. Donc, je vous ai présenté l'Auberge du Mouton Blanc, le Tout va bien juste à côté du Panthéon qui est un client historique depuis ses tout débuts et qui m'a passé quand même beaucoup de liqueurs et tout. Donc, ça m'a fait plaisir aussi de les mettre en avant via ce biais-là et je profitais d'aller les voir pour faire une petite vidéo. Et hier, par exemple, je suis allé chez Roger la Grenouille, pareil, qui est un client historique de ma marque depuis le tout début, chez qui j'avais déjà fait une vidéo, mais qui n'avait pas spécialement marché. Et là, je vais faire le montage cet après-midi ou la sortir demain. Le patron est un mec rigolo, donc je pense qu'elle a bien marché. Le patron, en fait, avant, il était chanteur d'opéra, et maintenant, il est patron de resto. Donc, je lui ai fait m'annoncer des plats en mode chanteur d'opéra. J'ai hâte de vous sortir la vidéo. Si vous écoutez le podcast, pas le vendredi même. Non, je vais sortir la vidéo samedi, donc elle sera déjà disponible pour vous. Donc, je vous encourage à aller la voir. J'ai pas encore fait le montage, mais je sais que le montage sera stylé parce qu'il annonce un faux filet avec une voix d'opérette. Donc, un faux filet. Enfin bref, un resto sympa et un patron très cool, même si il n'est pas là tous les jours. Parce que monsieur est un châtelain qui possède un château en dehors de Paris. Donc, voilà. Pas que ça à faire. Il n'y a pas que vos fifs à voir. Mais son resto est cool. Voilà, donc je pense que je vais continuer sur cette lancée. Peut-être faire un peu plus aussi de vidéos, des petits réels éducatifs sur l'alcool, comme je l'ai fait là sur l'agence Yann. Pareil, c'est des trucs qui marchent moins, mais je préfère sortir beaucoup plus de vidéos, même si ça marche moins. De toute façon. Moi, mon Instagram, je l'ai lancé il y a 8 ans. Je partageais des photos de bouteilles de whisky que je dégustais pour en parler avec d'autres personnes qui dégustaient des whisky. Pendant 5 ans, mon Instagram, il n'a pas marché et ce n'était pas forcément le but. Donc, faire des trucs qui maintenant marchent un peu moins, mais qui font quand même des dizaines de milliers de vues et qui me permettent de faire avancer mon business, moi, je m'en accommode très bien. Donc, je pense que ça va plaire à peut-être un peu moins de monde, mais si ce. la masse de gens qui, normalement, je regarde juste la vidéo, la consomme juste, et après, s'intéresse pas à mon compte ou à mes business ou quoi, si je les perds, je vous avoue que je m'en tape un peu, quoi. Donc voilà, la direction que prend mes réseaux sociaux, et je pense que du coup, je vais préparer des contenus un peu plus éducatifs et vous présenter aussi dans ces podcasts les trois restaurants, trois, quatre restaurants que je peux faire chaque semaine. Donc là, cette semaine, bah, je vous ai dit, j'ai fait l'Auberge du Mouton Blanc, j'ai fait le Tout va bien, j'ai fait Roger la Grenouille, donc qui fait, si vous voulez manger des trucs avec de la grenouille, allez chez lui, qui est dans le 6e arrondissement. Mais il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ça. Une carte des vins, si vous êtes un amateur de vin, je vous conseille d'aller là-bas, parce que le gars a déjà un nombre de bouteilles stratosphérique, et en plus, il a des très grands noms. Donc c'est super intéressant pour ça, Roger la Grenouille. J'ai fait aussi Tambouille, que j'ai pas présenté en vidéo, puisque j'ai vraiment mangé en coup de vent, qui est le restaurant où je travaillais avant à Boulogne-Billancourt. Si vous aimez bien, si vous voulez manger une bonne côte de bœuf ou un burger à double étage avec du pain fait par un meilleur ouvrier de France qui est succulent, je vous invite à aller là-bas, vraiment Boulogne-Billancourt, là, Tambouille. J'ai passé plus d'une année à bosser là-bas et vraiment super resto, l'équipe est trop cool. Donc pareil, n'hésitez pas à aller là-bas. Et du coup, dites-moi en message privé à la suite de ce podcast-là si vous aimeriez que je vous fasse une fois par semaine un contenu un peu éducatif sur l'alcool, que ce soit vous expliquer comment quelque chose est fabriqué ou vous parler d'une marque ou que sais-je. Voilà, je vous laisse me donner vos idées de ce que vous aimeriez entendre et je vous en parlerai. Bah, par exemple, là, sur les 5 maquisards que j'ai sortis, il y en a plusieurs qui ont des vieillissements qui sont particuliers, donc avec impact du bois, comme je vous ai expliqué, avec notamment par exemple l'Armagnac qui est vieilli en grain fin, qui vient faire des oxygénations parce que à travers le bois, l'oxygène passe, et c'est ça le vieillissement. Il y a aussi le fait qu'on perd de l'alcool tous les ans parce que de l'alcool s'évapore, et c'est là que c'est intéressant de le contenant fût de bois parce que l'alcool vit, bouge avec la chaleur il prend plus de place, avec le froid il se rétracte sur lui-même, donc le fait qu'il bouge vachement pour le vin par exemple c'est pas du tout bon, mais pour les spiritueux c'est très bien, donc il y a même je sais pas si vous connaissez la marque de whisky Michel Couvreur, qui est vraiment somptueuse, mais je crois que vous en avez déjà parlé dans un précédent podcast. Lui m'a expliqué que l'été, il est à Beaune, enfin à côté de Beaune, en Bourgogne, et l'été, lui, quand il fait très chaud, il sort ses fûts et il les met le long de la fontaine du village pour qu'ils soient en plein soleil et que vraiment ça chauffe très très fort. Et la nuit, quand il fait froid, il les rentre, donc déjà il se tape l'aller-retour avec ses fûts tous les jours, je sais pas comment il fait, il est absolument, c'est un psychopathe. Il les rentre et il les laisse dans son chai, bien au froid, et donc comme ça, le whisky bouge vachement, il est vivant et ça le fait évoluer très fort, et c'est ça qui est intéressant, ça qu'on cherche dans les spiritueux. Donc on peut aller jouer sur ces écarts de température, on peut aller jouer sur les niveaux de remplissage du fût, on peut aller jouer sur les types de chauffe. Donc par exemple, l'Armagnac, il a fait d'abord un vieillissement en grain fin, mais chauffe moyenne plus, qu'on appelle, c'est-à-dire que les fûts, on les chauffe avant de mettre du liquide dedans, donc on peut les chauffer faiblement, ou on peut vraiment les brûler, les toaster à fond, comme on fait par exemple avec les bourbons, et donc dans ce cas-là, il y aura un impact, bah en fait, comme l'alcool va être en contact avec une douelle, donc les lames de bois brûlées, bah on aura forcément les arômes un peu toastés, de café, etc., de cacao, coco et tout, qui vont être, même de cuir, qui vont être donnés par le bois. Donc, si vous chauffez plus ou moins fort, vous n'aurez pas le même type d'arôme. En fonction du type de bois que vous avez, du type de chêne, le chêne américain ne donne pas les mêmes vieillissements, les mêmes goûts que le chêne français. Le chêne du Limousin donne pas les mêmes goûts que le chêne gascon. Le chêne avec des gros grains et des grains fins donne pas la même oxygénation, donc pas le même vieillissement. Et c'est ça. Et là, vous vous rendez compte que vous rentrez dans un monde infini parce qu'ensuite, il y a des types de bois qu'on peut utiliser. Par exemple, moi j'adore les alcools qui sont vieillis en fût de châtaignier. Ça donne une élégance incroyable. J'ai goûté un gin en fût de châtaignier. Au nez, ça sentait le bourbon. Donc c'est vraiment dingue, quoi. Et le bois, et déjà la variété de matières premières entre les cépages, les variétés de pommes, les variétés de céréales est infinie, quasiment infinie. Donc ça donne des eaux de vie qui sont assorties d'alambics qui sont vraiment différentes. Il y a tout type de formes d'alambics qui vont donner des goûts différents. Et ensuite, les types de bois, les climats, etc. Donc, c'est pour ça que moi, je suis autant fan du monde des spiritueux, c'est que c'est un monde qui est littéralement infini, parce que vous aurez toujours un micro-paramètre que vous pouvez changer et qui changera l'identité de votre eau de vie à 3, 5, 10, 15, 20 ans, en fait. Et c'est aussi tout l'intérêt dans les maisons dans les très grosses maisons, des maîtres assembleurs, qui se retrouvent en permanence avec des eaux de vie qui ont des goûts différents et qui doivent les réassembler pour que leur bouteille ait toujours le même goût. Jack Daniel numéro 7, ça a toujours le même goût partout dans le monde. Bah, il y a un mec qui est chargé de mixer les centaines de milliers de fûts non-stop pour que ça ait toujours le même goût. Donc il connaît Jack Daniel numéro 7 par cœur et il saurait le reproduire à l'infini, ce qui est un métier extrêmement compliqué. Il faut des qualités de dégustateur hors pair, en fait. C'est absolument dingue. Donc voilà, pour le petit cours éducatif que je n'avais pas forcément prévu aujourd'hui, je voulais m'arrêter avant. Mais oui, les paramètres de vieillissement, et en plus, moi c'est pour ça que j'ai tendance à préférer le whisky, parce que comme il y a un peu moins de règles, un peu moins d'encadrement, et qu'on en fait dans le monde entier, et bah, on peut se retrouver avec des alcools qui sont vraiment extrêmement différents et pourtant qui sont tous du whisky. Et en fait, le monde du whisky fait que, enfin, sa réglementation, la manière dont on le fabrique, sa matière première, ses types de vieillissement, fait que le whisky est un alcool littéralement infini. Vous pouvez avoir une infinité d'identités de whisky, c'est absolument dingue. Et moi, c'est comme ça que ça m'a touché, en fait, la passion de cet alcool-là, c'est que je me suis dit, mais je goûte un Irlandais, un Écossais, un Tourbé, un whisky taïwanais, américain, un whisky de seigle américain, whisky de un single malt américain. Enfin, tout a des goûts différents, les manières de le fabriquer. Et voilà, bon, je pourrais en parler des heures, hein, de toute façon. Je pense que ça sent que je suis un peu passionné du domaine. Et c'est pour ça que le fait de faire maquisard, pour moi, mais c'était mon rêve ultime de passionné. Et j'ai encore plein d'autres idées. Parce que j'aimerais bien avoir mon propre chai de vieillissement, faire mes propres vieillissements à moi avec des types de fûts que je sélectionne. Pour l'instant, j'en ai pas encore les moyens. Donc je fais le travail de base d'embouteilleur qui est de la sélection, de l'embouteillage et de la vente. Mais après, j'aimerais bien acheter, je sais pas, des whiskies qu'on. Enfin, des eaux de vie de céréales qui ont 1, 2, 3 ans, et c'est moi qui fais moi-même les vieillissements, qui fais des finishes, qui vais chercher des fûts d'autres distilleries pour faire des assemblages et tout. Enfin, j'ai des idées de dingue et j'ai hâte de pouvoir les faire, mais en attendant, je suis hyper fier de pouvoir sortir un Calvados vieilli en fût de whisky écossais, quoi. C'est génial. Ou un cognac en fût de vin, c'est assez rare, son cognac, on voit pas trop de vieillissement autre que les fûts de chêne classiques qui n'ont rien contenu avant. Déjà parce que je crois qu'ils n'ont pas le droit de faire autre chose que le plus exotique qu'ils peuvent faire, en fait, c'est fûts de vin. Je crois qu'ils ont le droit à rien d'autre. C'est pas possible d'avoir un cognac vieilli en fût de whisky. Enfin, vieilli en fût qui est contenu du whisky avant ou qui est contenu du rhum. On n'a pas le droit, vous perdez l'appellation cognac. Donc vous pouvez en trouver, mais ils s'appelleront plus cognac. Ils s'appelleront eau de vie de vin ou quelque chose comme ça. Mais il y en a qui le font quand même, juste comme ils perdent l'appellation. Cognac, bah, c'est un peu plus dur à vendre, donc c'est une prise de risque qu'il faut calculer. Et là, un embouteilleur indépendant comme moi, bah, moi je pourrais le faire, parce que je pourrais dire c'est une eau de vie de vin de région charentaise, donc tout le monde pourrait saisir que c'est du cognac, qui a été vieilli en fût de rhum. Donc j'aurais pas le droit d'appeler ça cognac, mais normalement les gens comprendront que c'est un cognac vieilli en fût de rhum, et là ça devient intéressant. L'appellation Armagnac, l'appellation Calvados sont beaucoup plus souples. Donc laisse des types de vieillissement, ce genre de vieillissement se faire. Le whisky, pareil, même le rhum, pareil. En fait, c'est cognac qui est très psychorigide. Mais bref, J'ai hâte de pouvoir vous proposer ce type de choses. Et n'hésitez pas du coup à m'envoyer un message privé pour me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans le milieu des spiritueux. Voilà, là, j'ai brièvement parlé du vieillissement en profitant de faire mes annonces. Et c'est dingue, quoi, c'est infini. C'est vraiment ce boulot, c'est vraiment ma passion. Je suis tellement heureux de faire ça. Vous imaginez pas. Et donc, à travers ça, je vous remercie vous aussi parce que si vous n'étiez pas là, je pourrais pas le faire parce que j'aurais personne à qui en parler, à qui apprendre, à qui vendre aussi. Donc, je n'existerais tout simplement pas. J'espère que l'aventure va continuer longtemps et que je pourrai vous proposer des trucs de plus en plus dingues et vous apprendre de plus en plus de choses. Et que tout ça n'est qu'un début. Donc, j'ai hâte de voir la sortie de la fête des pères et l'engouement que ça va avoir, ou le non-engouement, ce qui serait terrible. Mais bref. Voilà. Donc, podcast un peu plus calme aujourd'hui. J'en profitais surtout pour faire pas mal d'annonces et vous raconter ma petite anecdote de pied de hobbit saveur focaccia d'hier soir. Et vous apprendre deux, trois trucs sur le vieillissement, finalement. Je pensais pas le faire et voilà. On pourrait creuser beaucoup plus longtemps, hein, parler des essences de bois et tout, mais comme j'ai pas spécialement préparé, ça sert à rien de le faire maintenant. Écoutez, du coup, si vous voulez ne pas rater les ventes de mes prochains maquisards de michelot.com autour du 15 mai, la date est pas encore fixe, mais ça sera autour du 15 mai. L'événement spécial qui aura la barge le 6 juin, les tickets sont pas encore en vente, mais on les mettra bientôt. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, hein. S'il y en a une cinquantaine en vente, ça sera le bout du monde. Ça reste une petite péniche. Et si en plus chacun vient avec son père, ça fait le double, donc ça fait 100 personnes. On sera très heureux, mais on sera vite serré, quoi. Et après, bah, sinon, si vous voulez retrouver les autres alcools que je vends, enfin que je fabrique moi ou que je vends pour d'autres, de michelot.com. Voilà, je vous embrasse. Passez une bonne fin de semaine, du coup, une bonne fin de semaine sainte pour ceux qui vont à l'église. Et voilà, à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.